de pouvoir répandre notre cœur dans la maison du Seigneur, de pleurer, d'être joyeux, d'être honnête, d'être vrai sous le regard de Dieu, comme notre sœur l'a dit dans la prière, notre Dieu, il est vivant. Et regardez ce qu'il a dit, notre Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, il a dit quelque chose de très important. Si nous voulons qu'il vienne au milieu de nous, si nous voulons qu'il se manifeste au milieu de nous, car je crois que c'est quand même ce que nous voulons. Jean, chapitre 14, verset 21. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Comme je le dis de temps en temps, je crois qu'il y a des paroles, c'est tellement important dans la Bible que peut-être on ne les croit pas vraiment, tellement c'est grand. Jean, chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Je peux le relire ?« Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Il n'est pas dit celui qui va à l'église. Il y a une grande différence là. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Et l'honnêteté consisterait à ce que l'on puisse vraiment être honnête avec cette parole et dire « Mais est-ce que j'aime Dieu ? Est-ce que je vais à l'église ou est-ce que je garde sa parole ?» Alors on va lire un commandement dans Ésaïe, on l'a lu ce matin, Ésaïe 48, verset 17. Est-ce que nous réalisons la réalité des commandements, la portée des commandements? Vous savez, il m'arrive souvent de discuter avec des hommes et des femmes qui viennent à l'église et qui, à la fin de la prédication, me disent « Mais je suis loin de Dieu. Je croyais que j'étais proche de Dieu parce que j'allais à l'église, mais je me rends compte combien je suis. Je suis loin de Dieu. » Mais c'est bien. Ça prouve que les gens vivent dans l'illusion et qu'ils doivent se ressaisir. Regardez cette promesse dans l'évangile de Jean et de Ésaïe, au chapitre 48 et au verset 17. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. » Vous croyez que c'est vrai, ça ? Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et tout cela dans un extrême équilibre. Notre sœur Julie disait dans sa prière qu'on peut être toujours joyeux et en même temps on peut être triste. Paul, est-ce qu'il était joyeux, Paul ? Est-ce qu'il était triste aussi ? Il dit, Paul, dans les Romains, « J'ai dans le cœur un chagrin continuel à cause des perdus. » Ah, est-ce qu'on peut être joyeux et en même temps avoir un chagrin continuel? Ben oui, c'est tout à fait cohérent. On est joyeux parce qu'on a de l'espérance, et en même temps on est triste parce qu'il y a plein de gens qui vont en enfer, plein de gens qui ne sont pas sauvés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il y a une vérité qui parcourt l'Écriture. D'ailleurs, si vous regardez bien, l'Apocalypse, la Genèse commence avec un fleuve, et l'Apocalypse termine avec un fleuve. Il y a un fleuve qui parcourt toute la Bible, c'est le fleuve de la présence de Dieu. Et si on était attentif au commandement du Seigneur, pas si on allait à l'église, je le répète, il y a des gens qui vont à l'église et qui n'ont pas de culte personnel, et c'est ce qu'on va voir cet après-midi, parce que je pense qu'il y a un fleuve. Alors, on va relire ce texte dans Jean au chapitre 7 et au verset 37, parce que comme je vous l'ai dit ce matin, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte combien ils sont aveuglés par l'ennemi, combien ils sont dans la désobéissance, et ils croient qu'ils sont dans l'obéissance. Vous savez, le diable, il est rusé. Il peut arriver à faire croire à plein de chrétiens qu'ils obéissent, alors qu'en vérité, ils n'obéissent pas. Et je vais vous aider à savoir, vous devez, à la fin de ce culte, savoir si vous obéissez ou non au Seigneur. Jean chapitre 7, verset 37. C'est un texte qui parle sur la vie de l'esprit qui peut être accordée à ceux qui ont soif. Et pourtant, combien de chrétiens n'ont pas la vie de l'esprit ? Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Le Seigneur Jésus est la vie. Il est vivant. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de manifester sa vie. Il l'a dit à la Samaritaine, il l'a dit de je ne sais pas combien de façons, qu'il était la vie, que celui qui buvait sa parole, qui mangeait sa parole, il n'aurait plus jamais faim, il n'aurait plus jamais soif. Ce sont des choses qui devraient encore nous interpeller, même si on est chrétien depuis longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes chrétien, mais peut-être que nous passons à côté, même s'il y a longtemps qu'on est chrétien, de certaines expériences qui feraient que ces fleuves d'eau vive seraient en bénédiction dans notre vie. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Jacques dit, que dans une vie, la chose la plus difficile à maîtriser, c'est la langue. Et que de notre corps, il ne doit pas sortir de sorte d'eau, il ne doit pas sortir de sorte de langage, il doit sortir la bénédiction. Et je crois que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est la bénédiction qui sort de notre vie. Et c'est ça l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est qui sort de ma vie? Qu'est-ce que c'est qui sort de mon âme? Qu'est-ce que c'est qui sort de mon cœur quand je parle? Parce que la Bible dit, mais qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et si de ma vie, si vous appreniez que de ma vie ne sort que des blagues, s'il ne sort que de la grossièreté, si j'étais vulgaire, si je continue à fumer comme j'étais avant, si je buvais, si j'étais moitié saoul le matin ou le soir, qu'est-ce que vous diriez de moi? Et que je vous dise, mais mes frères, je suis pasteur, je suis un homme de Dieu, je prêche l'évangile, vous voyez, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Allez, monsieur Blanc, qu'est-ce que vous me diriez? Je sais que lui viendrait me le dire. Comment? Voilà, vous me diriez, vous êtes faux. Un faux. Vous êtes un faux. Et c'est exactement ce que le Seigneur pourrait nous dire. Si d'un côté, je vais à l'église et que je continue à vivre dans le péché, et tout ça, c'est un problème parce que nous l'avons vu ce matin. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif. Alors quelqu'un peut dire, mais moi c'est bon, je suis spirituel, j'ai soif de paix, j'ai soif de bénédiction, j'ai soif de bénédiction, j'ai soif de grâce, j'ai soif d'amour. Qui n'a pas soif d'amour? Qui c'est qui va être rempli de l'amour de Dieu? Mais tout le monde. Tout le monde va être rempli d'amour de Dieu. Mais la question, il ne faut pas l'interpréter comme ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et toute notre exhortation cet après-midi va être basée là-dessus, pour que vous sachiez, si oui ou non, vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, ce n'est pas qu'on vive longtemps ou pas longtemps. Ce qui est important, c'est qu'on soit prêt à rencontrer le Seigneur. Ce qui est important, c'est que si vous partez demain dans l'éternité, si Jésus revient vous chercher, vous soyez prêt. Ce n'est pas une question de dire, mais moi je crois en Dieu, moi j'aime Dieu, moi je suis pentecôtiste, moi je suis protestant, moi je suis catholique. Ça ne veut rien dire. La véritable nécessité, c'est de dire, mais oui, j'aime me retrouver dans la présence de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je l'ai dit ce matin, et je l'aurais dit avec beaucoup de sérieux, parce que beaucoup de chrétiens seront furieux lorsque Jésus va revenir et que les pasteurs n'auront pas pris le temps de leur dire ces choses-là. Parce que c'est ce qui va arriver dans plein d'églises, où les chrétiens seront furieux parce qu'ils n'auront pas pris du temps pour veiller sur leur âme, de se sanctifier, de se consacrer, de revenir au Seigneur. Et on leur aura fait croire que tout allait bien, tu vas à l'église. Ce matin, je disais à quelqu'un, est-ce que vous aimez Jésus? Mais monsieur, oui, parce que je viens à l'église. J'ai dit, est-ce que vous êtes sûr que parce qu'on vient à l'église, on aime Dieu? Elle m'a dit non, c'est vrai. Mais voyez comment on peut être superficiel et léger. Comment on peut caresser les gens dans le sens du poil? Ce n'est pas parce que vous êtes à l'église que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous avez soif de paix, parce que tout le monde a soif de paix, que vous êtes à côté de Jésus. Et comme je l'ai dit, et je vous le dis, parce que vous savez, cette nuit, j'ai été repris par le Seigneur. Cette semaine, j'ai été repris par le Seigneur par rapport à des gens qui n'ont une piété de façade. Et que quand Jésus va revenir, ils ne seront pas prêts.
On en parlait hier avec ma fille. Elle me disait, c'est quand même bizarre que Jésus appelle ces vierges, qui pourtant attendent le retour du maître. C'est des vraies chrétiennes. Elles ont juste oublié de prendre de l'huile. C'est un oubli. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi? Aujourd'hui, on dirait, oh, c'est pas grave, c'est de la négligence. T'as pas été à l'église. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas pas au culte. Bon, tu vas pas te prendre la tête. Tu aimes le Seigneur. On entend ça aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, quand il dit quelque chose, c'est toujours sérieux. Et quand il a dit que ces jeunes filles qui n'avaient pas pris d'huile, elles étaient folles, c'est parce que c'est de la folie que de ne pas travailler au salut de son âme. C'est de la folie que de ne pas s'appliquer à avoir un culte personnel. C'est quoi cette huile? Cette huile, ça veut dire qu'il y a des gens qui reçoivent les choses de l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien. Si le Seigneur revenait dimanche, est-ce que le Seigneur peut revenir dimanche, dans la semaine? Est-ce que le Seigneur peut revenir? Oui, il peut revenir n'importe quand. S'il revenait et que je ne sois pas sérieux avec ces choses, est-ce que vous ne seriez pas furieux contre votre pasteur de ne pas vous avoir aidé à vous préparer à le rencontrer? Ben oui, mais c'est sûr. Je vous avais raconté dimanche dernier de cet homme qui avait reçu une vision et qu'il y avait beaucoup de chrétiens, bien sûr, et de pasteurs qui n'étaient pas prêts lorsque Jésus est revenu. Et que le dimanche après l'enlèvement, ils se sont retrouvés à l'église et ils enguirlandaient le pasteur parce que le pasteur n'avait pas pris le soin de leur dire que c'est sérieux que de se préparer à rencontrer Dieu. Mais c'est ce qui va arriver dans plein d'églises. Il y a des gens, ils ne font pas leur culte, mais ça ne les embarrasse pas beaucoup. L'ennemi a réussi à les noyauter dans cette tiédeur, dans cette mort spirituelle et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas prêts. La Bible est catégorique, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. C'est écrit où, Jonathan? Dans la Bible, c'est bien. Deutéronome chapitre 4 ou chapitre 6, verset 4. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Et je vous pose la question, ne me répondez pas, mais répondez au Seigneur, parce que Dieu regarde au cœur. Est-ce que vous veillez attentivement sur votre âme? Tous les jours de votre vie, et il ajoute, de peur que ces choses ne sortent de votre cœur. Et beaucoup de chrétiens, mais sont légers, ils vont à l'église exactement comme le restaurant. S'ils ont envie, ils vont, s'ils n'ont pas envie, ils vont pas. Ils lisent leur Bible, s'ils ont envie, ils ne la lisent pas, s'ils n'ont pas envie. C'est eux qui décident. Et ils n'ont pas compris qu'en vérité, cette affaire est sérieuse. Jésus se lève à la fin de cette fête, c'est solennel. Il s'écrit, parle fort. Pourquoi Jésus parle fort? Parce que les gens n'écoutent pas. Quand il est dit une voix crie, c'est pas parce que Dieu a envie de crier. C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Vous avez vu les enfants, des fois, pour qu'ils écoutent, on est obligé de crier. Ça vous est jamais arrivé, ça, les parents? Tu vas aller au lit. Il faut crier pour qu'ils fassent quelque chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, Dieu, de temps en temps, il fait exactement la même chose. Mais c'est grave. Quand Dieu est obligé de crier, c'est que c'est très grave. Ça prouve qu'on est en train de s'éloigner de lui et qu'on ne pourra plus l'entendre. La Bible dit que si nous sommes des enfants illégitimes, est-ce que la Bible parle des enfants illégitimes? Oui. La Bible dit que nous sommes des... Est-ce que quelqu'un peut me dire la suite? Des bâtards. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Ça veut dire que des personnes qui n'ont plus de père. Nous avons rejeté notre père. C'est pas Dieu qui nous a rejetés, c'est nous qu'on s'est tellement éloigné de lui qu'on n'a pas calculé la dépense. Et moi je vous assure, je le sais très bien. Il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur. Ils sont capables de rester jusqu'à 1h du matin sur leur console vidéo et ils ne sont pas capables d'avoir une demi-heure pour se tenir devant Dieu. Pourquoi? Alors, est-ce que le pasteur doit dire toutes les semaines, retenez-vous une demi-heure? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils n'ont pas soif. Quand vous n'avez pas soif, ben vous ne buvez pas. Et je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous. Parce qu'il y a plusieurs, certainement personnes cet après-midi, qui sont en danger. Si Jésus revenait, vous n'êtes pas prêts. C'est ça que vous voulez, que la semaine prochaine, imaginons que Jésus revienne, vous vous retrouviez seul dans votre maison, imaginez nos enfants, imaginez dans une maison un homme qui va rester tout seul, sa femme sera partie, ses enfants seront partis, et cet homme sera là, dans quel état il serait? Dans l'effroi. C'est écrit. La Bible, Jésus le dit 7 fois,
dans 7 contextes différents. Ça prouve qu'il a dit au moins 7 fois, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce sont des choses solennelles. Et s'il y a bien une époque où il faut qu'on parle de l'enlèvement de l'Église, de l'importance d'avoir soif, de vraiment de savoir ce que ça veut dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, c'est bien maintenant. C'était utile il y a 2000 ans. Mais vous ne croyez pas que plus l'enlèvement approche, plus c'est important que nous en parlions ? Vous ne croyez pas que c'est important ? Et moi, je ne veux pas, je voudrais pas, parce que c'est ce qui va arriver. Mais c'est ce qui va arriver, c'est sûr et certain. Dans beaucoup d'églises, dans presque toutes les églises, il y a des gens qui vont être furieux contre le pasteur. Certains pasteurs seront enlevés, d'autres pas. Parce que les pasteurs n'auront pas été suffisamment sérieux avec ces choses. Et la Bible est catégorique. Un jour, la porte sera fermée. Elle sera fermée. Et on pourra faire ce qu'on voudra, ça sera terminé. La grâce de Dieu sera terminée. Et les gens qui pourront être sauvés après l'enlèvement de l'Église le seront uniquement au travers de la mort. Ils seront, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Qui c'est qui connaît les prophéties bibliques ? Qu'est-ce qui arrivera aux gens qui ne seront pas enlevés et qui refuseront la marque de la bête ? Ils seront décapités. Ça vous fait penser à rien ça ? Ça vous fait penser à rien du tout ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a de quoi quand même... Tout ce qui se met en place, tout le système d'un gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place, est-ce que vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer ? Et nous voyons bien que tout ça, ça se met en place et les gens n'y voient que du feu. L'autre jour, je regarde plus la télé, mais il parlait d'un gaz que les Juifs ont mis en place, un gaz qui est capable de faire pourrir les gens sur place. Je ne sais pas si on est compte. Le gaz, une fois qu'il est jeté de l'avion, les gens pourrissent sur place. Et il y a 2500 ans, ça a été écrit. On peut le lire, regardez. C'est bizarre ça. Le journaliste disait, voilà, tel pays a tel gaz, et ce gaz peut être mis en place, peut être jeté n'importe quand maintenant. Regardez quand même, dans Zacharie. Ça fait quand même réfléchir, hein. Mais je ne sais pas si les gens lisent la Bible, je ne sais pas. Oh, moi je ne lis pas, c'est trop compliqué. Regardez avec moi dans Zacharie, c'est dans Zacharie. Hein. Alors, Zacharie, chapitre 12. Mais regardez, ça, il faut quand même le lire. Non, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14. Mais regardez, imaginez, c'est à la télé, et Zacharie ça, alors que je ne me trompe pas, Zacharie, ça a été écrit, je crois, il y a 2400 ans. Ça fait quelques jours quand même. Il y a 2400 ans. Quand on lit dans une version moderne, on a l'impression que ça a été écrit maintenant. Mais quand vous lisez des vieilles Bibles sur les prophéties d'aujourd'hui, je vous assure, ça fait presque drôle. Quand vous lisez Zacharie 14, verset 12, « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples » qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Non mais franchement, il y a 2600 ans que ça a été écrit. Et on a inventé ce gaz pour faire pourrir les gens sur place, en quelques secondes. Vous ne trouvez pas quand même que ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux ? Vous ne trouvez pas que les choses sont en train de se mettre en place ? Et je crois que tout cela nous indique que notre délivrance approche et que si quelqu'un n'a pas soif de Dieu, il est en danger. Il est exactement comme ces vierges folles et il doit se ressaisir. Et moi, je vous supplie, mais je le dis, vous savez ce texte-là, ce texte « Soyez réconciliés avec Dieu », on en parle pour les chrétiens, pour l'évangélisation, ça est adressé à des chrétiens. Et l'apôtre Paul dit, je vous en supplie, mais ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle en vérité, c'est Dieu qui parle. C'est Paul ou Dieu ? C'est Dieu. C'est Dieu qui dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Je le dis à votre honte, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et quand on vit dans le péché, c'est la preuve qu'on ne connaît pas Dieu. Si vous vivez volontairement dans le péché, vous avez donné la preuve à Dieu en tous les cas, parce qu'à nous vous pouvez le cacher, mais vous avez donné la preuve que vous ne connaissez pas Dieu. Écoutez, relisez-le.
Alors c'est pour cela qu'il faut que, les pasteurs nous vous indiquions que si vous n'avez pas soif, vous êtes en danger. Que si Jésus appelle les vierges folles des vierges folles, c'est que c'est de la folie que de ne pas se préparer à rencontrer Dieu. Parce que c'est bien joli, tout va bien, on se plaint, tout ça. Mais je vais vous dire, c'est rien. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, il y a le Saint-Esprit dont il y a la paix. Mais laissez-moi vous dire que quand la paix sera retirée de l'Église, du monde, mais vous avez lu l'Apocalypse. Quand la paix sera retirée de la terre, ça sera quelque chose de terrible. Vous voulez vivre ces choses? Elles arrivent. Elles arrivent à grands pas. Et beaucoup de chrétiens feront partie de cette affaire. Moi, je me souviens quand je me suis converti, quand je suis rentré dans le ministère, j'avais demandé à mon pasteur, mais pourquoi dans la parabole des 10 vierges, Jésus a dit 5 folles et 5 sages. Après tout, vous êtes d'accord? Il y a la moitié. Ça fait réfléchir. Donc, quand on est stagiaire, il y a des textes qui nous font réfléchir. Mais c'est vrai. Et la femme du pasteur, je me rappelle, qui connaissait bien la Bible, elle me dit, mais c'est une prophétie. Et ça veut dire, certainement, que la moitié des chrétiens ne sont pas prêts. Et je pense que, vous savez, tout ce qui est dans la Bible, c'est sérieux. Et je crois pouvoir dire, en toute objectivité, toute simplicité, que c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Combien, d'ailleurs Jésus l'a dit, de deux dans un lit, un sera pris et l'autre laissé. Et ça arrivera que dans plein de familles, plein de couples, la femme soit prise, le mari soit laissé. Ça ne veut pas dire que c'est on plouffe, c'est un sur deux. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu ne se trompe pas, c'est le salut, c'est quelque chose de personnel. On ne peut pas obliger quelqu'un à se convertir, mais une chose est certaine, de deux dans un champ, un sera pris, l'autre laissé. Ce sont des choses sérieuses. Et moi, je vous assure, cette nuit, hier matin, ce matin, je priais et je sentais dans mon cœur combien Dieu me demandait d'insister parce que des chrétiens ne sont pas prêts. Des chrétiens s'imaginent qu'ils ont soif de Dieu, parce qu'ils ont soif de bénédiction. Mais ce n'est pas ça. Ce texte, le diable l'a utilisé pour tordre les Écritures à votre propre ruine, dit l'apôtre Pierre. C'est une affaire sérieuse. Si quelqu'un a soif, le dernier jour, est-ce que ça ne peut pas nous parler aussi des derniers jours qu'on aura à vivre sur la terre? Est-ce que ça ne nous parle pas que c'est quelque chose de solennel? Est-ce que la Bible parle des derniers jours? Oui, elle en parle dans deux termes. Elle en parle d'une manière terrible. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et de notre côté, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. On voit bien que les choses sont en train de se décider vraiment. Où les gens sont en train de choisir, mais c'est ce que Jésus dit dans l'Apocalypse, mais que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille, se souille. Si vous voulez vous souiller, ben souillez-vous. Mais vous devez entendre que vous ne verrez pas l'enlèvement de l'Église. Vous devez le savoir. Vous ne devez pas venir le dimanche après l'Église essayer de me chercher, parce que j'espère quand même ne pas être là, après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Mais il y a beaucoup d'endroits où je pense que les pasteurs y seront. Je n'ai pas envie que vous disiez, oui, mais pourquoi M. Gouin ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas insisté? Pourquoi il ne nous l'a pas dit que c'était grave? Pourquoi il ne nous l'a pas dit que les temps s'approchaient? C'est comme ça que ça se passera. Mes frères et sœurs, vous devez savoir si vous avez faim. Et moi, je dois vous le dire. Si vous ne faites pas votre culte personnel, si la musique, la télé, le sport, comme je disais ce matin, cet enfant qui nous a dit, mon papa est pris pour le réveil, il ne nous a jamais amenés à une réunion d'évangélisation. Mais c'est vrai que depuis qu'on a Canal+, on regarde un match de foot tous les soirs. Un enfant de 10 ans. Papa ne nous a jamais amenés à une réunion d'évangélisation. Vous en êtes content? Je pense que ce frère, si on peut l'appeler frère, il est quand même en danger. Et il a certainement soif de distraction plus que de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'a pas cherché suffisamment Dieu et il ne sait pas ce que c'est d'être rafraîchi et rassasié par le Seigneur. Parce que quand vous avez la joie par le Seigneur, vous n'avez pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Si vous allez chercher... Alors moi, je veux vous aider. Je ne suis pas là pour faire un sermon, un procès, une bête et négatif. Je suis là pour que vous compreniez que si vous allez chercher la joie sur Internet, si vous allez chercher la joie sur Facebook, quelqu'un me disait, moi je passe 2 heures sur Facebook, je regarde, j'ai plein de potes et de copines, c'est super, oui. Et le culte, ah ben j'ai pas le temps, je suis crevé. Et bien, voilà. Et bien, après l'enlèvement, elle pourra chatter. Mes frères et sœurs, ce sont des choses solennelles, ce sont des choses sérieuses. Si vous n'avez pas soif, de vous retrouver dans la présence de Jésus. Parce que il y en a des fois qui me disent, ouais, moi je suis dans une église, le pasteur, on n'a pas envie d'écouter, on n'a plus envie d'aller à l'église, moi ça m'énerve. Mais je regrette, même si le pasteur ne va pas bien. On a quand même notre Bible tous. Oui ou non? Est-ce qu'on n'a pas tous la même Bible? Est-ce qu'on n'a pas tous le même Seigneur? Est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que Dieu peut vous nourrir? Est-ce que Dieu peut vous rassasier? Oui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Et ce que les gens du dehors ont envie de voir, c'est des vrais chrétiens qui sont pleins de joie. Alors je ne dis pas qu'on traverse tous des épreuves. Tous on a des épreuves. Qui n'a pas d'épreuves? Mais dans l'épreuve, est-ce qu'on peut témoigner de la grâce de Dieu dans l'épreuve? Est-ce que dans l'épreuve, on peut témoigner de la fidélité du Seigneur, de la paix de Dieu? Vous n'avez pas traversé des épreuves? Et dans ces épreuves, vous n'avez pas eu la joie de pouvoir dire que vous aviez la paix? Est-ce que Dieu est un Dieu de paix dans l'épreuve? Mais comment? Il y a des chrétiens qui ont un témoignage lamentable, qui sont un scandale à l'Église, qui sont en contradiction complète avec l'Évangile. Je vous parlais ce matin de cette jeune fille de l'Église qui a invité une jeune fille dans une réunion de jeunesse. Et que cette jeune fille, c'était une petite réunion, ils étaient une quinzaine, et donc il y avait un débat. Et la nouvelle qui découvrait l'Évangile a posé des questions aux chrétiens. Alors, et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais nous, c'est pareil, on va au cinéma, on regarde tel film. Et tel film, vous allez regarder? Oui, ah bon, ce film de violence? Oui, oui, bon, c'est pas grave. Et puis, il parle à une autre. Enfin, ça a duré toute la soirée. Et la dernière question, c'était l'apothéose. Elle pose la question à la femme du pasteur. J'espère que la réunion, c'était pas dans cette église. Elle pose une question à la femme du pasteur. Et les boîtes de nuit, pour vous, les chrétiens, c'est... Vraiment, vous n'y allez pas, c'est pas possible, puisque c'est un lieu de perdition. Et la femme du pasteur a dit, ah mais si, moi j'y vais de temps en temps, ça me détend et ça me fait du bien. Et là, cette jeune fille inconvertie a dit à la chrétienne, je vois, vous êtes comme nous, sauf que le dimanche, vous allez à l'église. Ça s'appelle un objet de scandale. Quand un chrétien, quand il n'y a plus de différence entre un chrétien et un inconverti, je peux vous dire que ça doit faire réfléchir. Quand un chrétien parle comme un chrétien, « Oh, c'est pas grave, les saintes lettres, c'est dans le Robert, alors moi je peux le prononcer. » On l'a entendu ici, ça. Tout ça, ça veut dire quoi? Que les gens n'ont pas soif. Parce que quand vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, vous recevez la joie de Dieu. Quand vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, vous recevez la paix de Dieu. Et quand vous avez la joie, quand vous avez la paix, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller dans le monde chercher la joie. Et si quelqu'un l'a expérimenté, je pense qu'il peut dire oui, c'est vrai. Peut-être que vous ne l'avez jamais expérimenté, que c'est encore plus grave. Mais je crois que vous avez un Dieu qui est vivant, un Dieu qui veut vous amener à cette vie de l'Esprit, parce que je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour un chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu dit. C'est le départ. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Venir, comme Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, je viens, après tout, je suis le Fils de Dieu, on verra. Est-ce qu'il a dit ça? Non, il a dit, je viens pour faire ta volonté. Est-ce que cet après-midi, humblement, chacun d'entre nous, nous pouvons dire en toute vérité, Seigneur Jésus, je suis venu dans ta maison, c'est dimanche après-midi, le 14 octobre. Pourquoi je suis venu? Est-ce que je suis venu parce que je veux faire ta volonté? Quoi que ce soit qu'il y aura, ça m'est égal, mais je veux faire ta volonté. Et s'il y a quelqu'un qui cet après-midi, ne levez pas la main, mais s'il y a quelqu'un qui peut dire ça au Seigneur, parce que Dieu regarde au cœur. Vous le savez que Dieu regarde au cœur. Et s'il y a quelqu'un qui, à sa place, peut dire, mais oui, pourquoi je suis venu? Mais pourquoi je suis dans un temple cet après-midi? Pourquoi je suis venu dans la maison du Seigneur? Pour essayer de me faire croire que Dieu est avec moi parce que je suis dans une église? Pour essayer de me faire croire que j'obéis à Dieu parce que je suis dans la maison du Seigneur? Pour essayer de me faire croire que j'ai une grande communion avec Dieu parce que je vais pouvoir prendre le pain et le vin? Où est-ce que je suis venu? Parce que j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin d'une parole. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose dans ma vie. J'en ai assez de cette tiédeur. J'en ai assez parce que de cette médiocrité. La tiédeur, c'est grave ou c'est pas grave la tiédeur?
Mièvre.
Taisez-vous Valérie. Est-ce que la tiédeur, est-ce que c'est grave la tiédeur bibliquement? Qu'est-ce que Dieu dit, la tiédeur? Vous savez, quelqu'un qui est tiède, nous, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est tiède, qui vient à l'église quand il a envie, qui lit pas sa Bible? Bon, écoute, tu vas à l'église, tu aimes Jésus. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que Dieu dit des tièdes? Qu'il les vomira. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce n'est pas du tout le même langage que les pasteurs du 21e siècle. C'est pas grave, tu vas pas à l'église, bon, tu manques l'église, bon, c'est pas grave, on n'est pas des légalistes. C'est clair. Ça, c'est sûr qu'il ne risque pas de venir. Mais, vous voyez, on en est là aujourd'hui. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui est tiède, la parole de Dieu, elle est catégorique. Si quelqu'un est tiède, c'est Jésus qui le dit, c'est pas Gérard Gaud qui l'a inventé parce qu'il voulait faire une prédication. Si quelqu'un est tiède, je le vomirai de ma bouche. Et c'est ce qu'on va vérifier, hélas, à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de chrétiens vont rester sur le carreau. Et moi, ça, je vous avoue que ça me brise le cœur. Parce que je sais que ça arrivera dans l'Église où Dieu m'a placé. Et que c'est comme une... Il ne faut pas prendre la responsabilité de tout. Mais vous avouerez quand même que si tous les pasteurs du monde se mettaient à prêcher les choses consciencieusement, je pense que beaucoup de chrétiens se ressaisiraient et feraient fi de certaines choses et commenceraient à balancer peut-être leur iPod et leur machin, là, qui passent des heures entières sur leur écran. Moi, je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut se ressaisir. Il faut vraiment se ressaisir. D'autant plus que le diable arrive à faire que ces chrétiens prient pour le réveil. Seigneur, mais bénis l'Église, bénis-moi. Seigneur, tu vois, je t'aime. Ce n'est pas vrai. Celui qui m'aime, il garde ma parole. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, c'est qui l'a dit? C'est Jésus. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Jésus n'a jamais dit, si tu vas à l'Église, tu aimes Dieu. Ce n'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit ça. Nous, on le dit, mais ce n'est pas vrai. Quand on aime Dieu, on garde ses commandements. Et on prend au sérieux ces choses. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Est-ce que vous avez envie d'expérimenter cette affaire? Pas de la croire, de l'expérimenter, de dire, moi je veux vivre ces choses. Oui, les temps de la fin seront difficiles, mais aussi les temps de la fin seront des temps bénis. Parce que quand même, ce texte, si on le prend d'une manière sérieuse, le dernier jour, le grand jour de la fête, moi, je pense que le dernier jour, ça peut être un jour de fête. Est-ce que vous croyez que les derniers jours que l'on passerait avec le Seigneur sur la terre peuvent être des jours de grâce, de bénédiction, de fleuve d'eau vive? Est-ce que vous le croyez que c'est possible, ça? Mais oui, mais bien sûr. Dieu n'a pas changé. Dieu peut nous remplacer toutes ces années de sécheresse, de misère, parce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui vont dire, eh bien, je vais avoir la soif de Jésus. Je répète et je termine. Si vous ne faites pas votre culte personnel, parce que c'est quelque chose que Dieu m'a demandé de vous dire, si vous n'avez pas de culte personnel, vous pouvez chercher les excuses que vous voudrez. Les excuses que vous voudrez, que vous n'avez pas le temps, que vous êtes débordé. Vous pouvez prendre les excuses que vous voudrez. Quand vous passerez devant Dieu, il n'y en a aucune qui tiendront. Si vous ne faites pas votre culte personnel, c'est que vous n'aimez pas le Seigneur. Ça vous plaît peut-être pas, je ne sais pas, ça m'est égal en vérité. Mais si vous ne faites pas votre culte, vous avez prouvé à Jésus que vous n'aviez pas envie d'être avec lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'Église qui boira de sa présence recevra toutes ces vertus que l'on aime énumérer sur la paix, la joie, etc. Parce que ça, ce sont des choses que Dieu donne, en plus. Parce qu'il y a des gens, ils veulent que Jésus, mais ils ont raison. Mais il ne faut pas oublier quand même que quand vous êtes avec Jésus, vous avez la paix de Jésus. Quand vous êtes avec Jésus, vous avez la paix. Et il ne s'appelle pas le prince de la paix? Est-ce qu'il s'appelle le prince de la paix? Si vous êtes avec Jésus, il ne faut pas s'étonner que vous ayez la paix. Si vous passez 3 heures devant la télé, il ne faut pas s'étonner que vous perdiez la paix. Parce que je pense que tout est fait pour ça. Et que ce que l'on regarde, c'est de la nourriture. Alors mes frères et sœurs, si quelqu'un a soif, il y a quelqu'un qui a soif de Jésus cet après-midi? Il y a quelqu'un qui dit, mais moi je veux me retrouver seul avec lui. Je suis en danger si Jésus revient. Je donnais ce témoignage que j'ai lu dernièrement, je crois que c'est la feuille que je t'ai donnée là. Un témoignage d'un pasteur qui a été dans une église, une grande église. Il a prêché sur l'enlèvement de l'église. Il a prêché sur l'enlèvement de l'église et au début du culte, bien sûr, il commence à prêcher. Tout le monde était content, on avait chanté des beaux cantiques, etc. Qui est prêt pour le retour de Jésus? Et tous les chrétiens ont levé la main. tous. Et à la fin de la prédication, il avait prêché sur l'enlèvement de l'Église, sur l'importance d'être prêt, d'être saint, d'être consacré, de s'appliquer vraiment. Et à la fin, quand il a reposé la question « Qui est prêt pour l'enlèvement de l'Église ?», il n'y a qu'une dizaine de personnes qui ont levé la main. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait réfléchir. Alors tiens, je vous pose la question, ne levez pas la main. Mais qui est prêt pour le retour de Jésus? Qui peut dire oui si Jésus revient cet après-midi? Je sais que je partirai avec lui. Est-ce que vous pouvez le dire? Eh bien, si vous pouvez le dire, béni soit Dieu. Mais si vous ne pouvez pas le dire, eh bien, prenez ces choses au sérieux et dites à partir de demain matin, je ne sais pas comment je vais faire, mais vous inquiétez pas, vous vous arrangerez. Quand on a soif de quelque chose, on le fait. Et Seigneur, je vais avoir soif, tu vas susciter cette soif. Moi, je ne veux pas rester dans les effrois, la colère de Dieu, la peur, tout ce qui va se passer. Si vous voulez des quelques indications, lisez le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 6. Et vous verrez que sur la terre, il ne fera pas bon vivre. Et que les gens qui disent aujourd'hui, oui, ça va mal sur la terre, oula, ça va de plus en plus mal. Laissez-moi vous dire que c'est des bricoles par rapport à côté de tout ce qui va arriver. C'est rien du tout. C'est rien ce qui se passe. Si vous avez des doutes par rapport à mes propos, ben lisez, je vous dis, l'Apocalypse, vous verrez si j'exagère. Mais une chose est certaine, Dieu veut que les chrétiens soient prêts. Alléluia. Dieu veut que les chrétiens soient prêts. Le jour de l'enlèvement, il faut que tous les chrétiens de Saint-Agne partent. Est-ce que ça vous irait bien, ça? Que tous les chrétiens soient prêts dans l'Église. Il y a des églises, moi je vous le dis, il y a des églises, quand il y aura l'enlèvement, personne ne partira. Ça vous étonne ce que je vous dis? Eh bien, on verra. Enfin, moi, je ne le verrai pas et je ne veux pas le voir. Mais je peux vous dire que c'est ce qui arrivera. Parce qu'on n'aura pas, on n'aura pas été sérieux. Avec les choses de Dieu, c'est sérieux. Travaillez à votre salut. Comment c'est dit? Avec crainte et tremblement. C'est très, très sérieux, le salut. Alors, on va fermer les yeux quelques instants. C'est sérieux. Si vous avez, si Dieu m'a mis ce message à cœur, c'est peut-être qu'il n'y en a qu'un. Peut-être qu'une. Mais il est certain qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Ici, je le sais, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui ne fait plus son culte, qui ne lit plus sa Bible, ou qui la lit une fois tous les 15 jours pour se faire croire qu'il est spirituel. Mais laissez-moi vous dire, et je vous le dis avec cœur, parce que j'en souffre aussi, que si vous n'avez pas soif de Dieu, vous resterez là. Vous verrez votre conjoint partir, vos enfants partir, et vous pleurerez et vous grincerez des dents. Et vous ne pourrez pas dire, notre pasteur ne nous l'avait pas dit, il aurait quand même pu le dire, il aurait pu nous le dire, il aurait pu insister. Et bien voilà, c'est fait. Alors, nous allons prendre le pain et le vin. Je vais demander à Jonathan et M. Blanc de préparer le pain et le vin avec un frère ou deux. S'il vous plaît, ce temps-là, où le sang, où le vin représente le sang, qui nous parle justement de cette mort et de cette séparation. Le sang nous parle toujours de mort, bien sûr, et de séparation avec le péché. Toujours. Quand on prend le vin, ça veut dire, voilà, moi aussi je suis mort. Jésus est mort sur la croix. Moi je veux mourir à moi-même. Et je veux me séparer du péché. C'est exactement ça, si on devait le synthétiser au maximum. Alors c'est une occasion bénie de prendre le pain et le vin. Croyez-moi, c'est une grâce d'être dans l'Église. Et de pouvoir dire, j'ai cette occasion de faire la paix avec Dieu, j'ai cette occasion de retrouver cette soif que je n'ai peut-être jamais eue. Je sais qu'il y a, je ressens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a pris le baptême, qui ne s'est jamais converti, ici, cet après-midi. Je le dis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui a pris le baptême, qui ne s'est jamais converti. S'il vous plaît, frère ou sœur, soyez sérieux, soyez sérieux. Venez à Dieu, venez à Dieu. Venez à Dieu. Et prenez ce pain avec sérieux. Dites, rappelez-vous que ça représente toute l'œuvre de Jésus, du Fils de Dieu au calvaire. Prenez ce vin avec reconnaissance. Dites, oui, moi aussi, je veux mourir avec toi, Seigneur. Je veux mourir au monde, je veux crucifier la chair. Je veux, comme Paul a dit, j'ai crucifié le monde. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui dit, mais Seigneur, je veux être prêt. Je veux partir avec mon épouse ou mon mari, avec mes enfants. Oh, je veux que ce soit la fête ce dernier jour, oui. Levez-vous, frères et sœurs, si vous êtes baptisés par immersion, levez-vous, mais soyez sérieux. Soyez vraiment sérieux. Moi, je vous assure, je suis peiné de voir la quantité de chrétiens qui ne sont pas sérieux. Alors, levez-vous à votre place. Et si vous êtes en paix, bénissez Dieu. Si vous l'avez perdu, eh bien, retrouvez la communion. Peut-être que ce soir, à la place de la télé, dans votre chambre, je ne sais pas, genoux au pied de votre lit, eh bien Jésus va vous donner la paix. Si vous n'avez pas soif, soyez honnête, demandez-la cette soif. Si vous ne l'avez pas, elle vous maintiendra tiède et Dieu ne vous prendra pas. Seigneur notre Père, nous le croyons qu'il y a un fleuve d'eau vive qui parcourt oui, toute ta parole. Nous le voyons de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu. Et nous voulons avancer en pleine eau. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont soif de toi, afin que tu les immerges encore plus dans ta présence. Et nous te prions pour ceux qui n'ont pas soif, qui sont là, qui sont dans l'éloignement. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui cet après-midi, même s'ils ont pris le baptême, sont loin de toi. Redonne-leur cette grâce de voir cette soif naître en eux, afin que tous nous soyons prêts pour le jour où tu reviendras nous chercher. Tu vois tous nos enfants également en âge de comprendre. Saisis-les, Seigneur, tous nos enfants, tous nos ados, qu'ils soient convaincus de péché. Tu vois tous ceux, Seigneur, qui sont là parmi nous tous les dimanches. Bénis nos enfants, Seigneur, afin qu'eux aussi aient soif de toi, qu'ils demandent cette soif que toi seul es capable de susciter lorsqu'un homme est conscient de ta grandeur. Merci, Jésus, que ton nom soit béni. Amen.